Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du mardi 22 juillet 2014, en direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, 15 000 personnes ont été déplacées dans le nord-est du Nigeria après une attaque meurtrière menée par Boko Haram le week-end dernier. Dans le nord du Mali, où de nouveaux accrochages ont été signalés hier entre des membres du MNLA et ceux du mouvement arabe de l'Azawad.
C'est toujours comme ça, nous sommes là pour défendre la population et leurs biens. Et les MNLA riposte chaque fois pour se positionner. C'est quelque chose entre le colonel Mohamed Najim ou les MNLA et les MAA, je n'arrive pas à comprendre.
Vous entendrez Sidi Ould Amar du mouvement arabe de l'Azawad. Suite de l'affaire de trafic de bébés en Afrique de l'Ouest, Safia Koulibaly, directrice du matériel de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, a été arrêtée à Cotonou par Interpol. Crise israélo-palestinienne, le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon, le secrétaire d'État américain John Kerry sont au Caire pour trouver une sortie de crise. Et vous aurez en fin d'émission l'actualité sportive et la musique. Pour l'instant, le journal.
La commission électorale en Libye a annoncé hier les résultats définitifs des élections législatives du 25 juin. Selon l'AFP, ces résultats donnent une nette avance à la mouvance civile devant les islamistes. Jean-Roger Bion.
D'après des élus contactés par l'AFP, les courants civils et libéraux auraient remporté plus de sièges que les islamistes. Des analystes libyens et diplomates font aussi état d'une défaite des islamistes qui dominaient le Conseil général national. La nouvelle assemblée doit remplacer ce parlement provisoire, accusé d'avoir aggravé une situation déjà chaotique en Libye en raison d'une lutte d'influence entre les courants libéraux et islamistes. L'annonce des résultats intervient sur fond de combats meurtriers entre milices qui se disputent depuis plusieurs jours le contrôle de l'aéroport de Tripoli. Les violents combats ont fait une cinquantaine de morts.
Et puis toujours en Libye, 16 personnes et des soldats pour la plupart ont été tués et 81 autres blessés dans des heurts à Benghazi, dans l'est libyen, entre l'armée régulière libyenne et des groupes islamistes, selon des sources médicales et militaires citées par l'AFP.
15 000 personnes ont été déplacées dans le nord-est du Nigeria après l'attaque meurtrière menée par Boko Haram le week-end dernier à Damboa, dans l'état de Borno, Idriss Fall.
Abdul Kadir Ibrahim, responsable des secours d'urgence, a déclaré que plus de 10 000 personnes ont fui vers la ville de Biou, 2 000 vers Goniri et 3 000 vers Maïdougouri, capitale de l'état de Borno. Depuis jeudi, des islamistes armés ont attaqué Damboa, incendiant des maisons et massacrant des civils. Selon des témoins, les habitants étaient sans défense car les forces nigérianes avaient opéré un repli stratégique face à la puissance de feu des islamistes. Pour le porte-parole de l'armée Chris Olukolade, les services de sécurité consolident leur déploiement dans le secteur et vont mettre en échec toute forme d'insécurité. En attendant, des médias nigériens affirment que les combattants de Boko Haram occupent toujours Damboa et que le drapeau flotte sur un édifice public.
Suite de l'affaire du trafic de bébés entre le Niger, le Bénin et le Nigeria, Safia Koulibaly, directrice du matériel de l'Assemblée nationale du Burkina Faso, a été arrêtée à Cotonou par Interpol. Claire Morin-Gibourg.
La police béninoise a annoncé hier que Safia Koulibaly de l'Assemblée nationale du Burkina Faso a été arrêtée la semaine dernière par Interpol pour trafic de bébés présumés. En même temps, 4 autres personnes ont été arrêtées pour faux et usage de faux, trafic et complicité de trafic d'enfants dans la sous-région. Tous ces suspects sont écroués à la prison civile de Cotonou. Fin juin, une vingtaine de personnes sont arrêtées au Niger dans le cadre d'un démantèlement d'un réseau de trafic de bébés. L'affaire avait fait grand bruit et avait semblé prendre une tournure politique, car l'une des épouses du président du Parlement nigérien, Ama Amadou, a été interpellée. Ces nourrissons nés au Nigeria avaient transité par le Bénin.
Les expulsions de ressortissants de la République démocratique du Congo vivant au Congo-Brazzaville se poursuivent et 13 500 d'entre eux sont rentrés au pays par le sud-ouest en 2 semaines selon les ONG de la RDC. Nicolas Pinault.
Oui, c'est Valentin Vanguindungi, coordonnateur de la société civile pour la province du Bas-Congo, qui l'a déclaré à l'agence France-Presse. Près de la moitié d'entre eux soutiennent qu'ils ont été expulsés et le reste dit être rentré par crainte de subir des violences, comme cela fut le cas pour leurs concitoyens expulsés de Brazzaville depuis le début du mois d'avril. Depuis le lancement de la vaste opération policière destinée officiellement à combattre la délinquance baptisée Mbata ya Mokolo, la gifle des aînés en Lingala, plus de 130 000 Congolais qui vivaient au Congo voisin sont rentrés en RDC. Fin mai, les Nations Unies avaient enjoint les autorités de Brazzaville à mettre fin aux expulsions. Selon plusieurs ONG basées à Kinshasa, il y a eu de nombreuses violations des droits de l'homme, notamment des violences physiques, mauvais traitements et violences sexuelles à Brazzaville. Les autorités du Congo-Brazzaville avaient nié ces accusations, mais ont radié 17 policiers pour mauvaise conduite.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Crise israélo-palestinienne, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et le secrétaire d'État américain, John Kerry, sont au Caire pour tenter de trouver une sortie de crise au conflit, Henri Francisque.
Dès son arrivée, M. Ban a appelé les deux parties à une trêve sans condition. Pour sa part, le secrétaire d'État américain a promis, dans la nuit de lundi à mardi, 47 millions de dollars d'aide aux civils à Gaza depuis le Caire, où il multiplie les rencontres pour parvenir à un cessez-le-feu. Hier, le président Barack Obama a déclaré que l'initiative de paix doit viser à arrêter les combats et la mort de civils. Les avions de guerre israéliens ont frappé plus de 50 objectifs hier, dont un grand immeuble, tuant, selon des témoins, au moins 11 personnes et blessant 50 autres. Des responsables palestiniens ont déclaré que plus de 570 habitants de Gaza, pour la plupart des civils, ont été tués dans les attaques israéliennes. De son côté, hier soir, l'armée israélienne faisait état de 25 soldats tués.
Les rebelles pro-russes ont remis cette nuit à Donetsk à des responsables malaisiens les deux boîtes noires de l'avion de ligne tombé jeudi dernier dans la zone qu'ils contrôlent dans l'est de l'Ukraine. Ils ont en même temps annoncé devant la presse un cessez-le-feu dans un rayon de 10 km autour du site du crash de l'appareil de Malaysia Airlines pour faciliter l'enquête sur les causes de sa chute due, selon les États-Unis, à un missile tiré depuis leur zone.
Ici même aux États-Unis, un ami des suspects du double attentat de Boston, qui avait fait 3 morts et plus de 260 blessés en avril 2013, a été reconnu coupable d'obstruction à la justice américaine. Morgane Guiriac.
Azamat Tazayakov, 20 ans, a été reconnu coupable par le jury d'avoir voulu faire disparaître un sac à dos appartenant à l'un des deux suspects, Dzokhar Tsarnaev. Il aurait sorti cette pièce à conviction d'un dortoir universitaire de la banlieue de Boston et l'aurait jeté dans une poubelle. Ce sac à dos ne sera retrouvé que 2 jours plus tard par la police. Tazayakov est la première personne reconnue coupable après les attentats de Boston. Il est sous les verrous depuis son arrestation le 20 avril 2013 et risque jusqu'à 20 ans de prison. Le tribunal se prononcera sur la sentence le 16 octobre.
Voilà pour le journal. Merci à Anne Albertson. Il est 6h08 en temps universel, 2h08 ici à Washington, dans le nord du Mali. De nouveaux accrochages ont été signalés hier entre les membres du MNLA et ceux du mouvement arabe de l'Azawad. Il y a quelques jours, près de 40 personnes avaient été tuées dans des affrontements similaires entre ces deux groupes près d'Anéfis. Pourtant, toutes les parties maliennes sont présentes à Alger pour des discussions de paix. Sur ce qui s'est passé hier matin près de Tabankor, Idriss Fall a joint Sidi Ould Amar du mouvement arabe de l'Azawad.
De 6h du matin, très tôt, il y a eu des échanges de tirs de très loin. Après, on s'est riposté et ils ont attaqué, on les a repoussés. Ils ont trouvé des campements parce que, tu sais, les gens, comme l'aménagement a quitté les lieux, donc la panique totale pour la population. D'autres sont sortis environ 5 km, 4 km dans des tentes. Donc, nous informons l'opinion internationale, les droits de l'homme, de l'acte criminel de Eminela et ses alliés. Ils sont venus avec une rage de vengeance sur la population civile sans défense. Le bilan fait 2 femmes décédées et 4 blessés, dont 2 enfants grièvement blessés.
Mais pourquoi ces affrontements?
C'est toujours comme ça. Nous sommes là pour défendre la population et leurs biens. Et les Minala riposte chaque fois pour se positionner. C'est pas, c'est quelque chose entre le colonel Mohamed Najim ou les Minala et les MA, je n'arrive pas à comprendre.
Il y a une semaine, il y avait eu des affrontements près d'Anéfis aussi.
Bien. Oui, oui, il y a eu des affrontements. Ils ont même eu des blessés, des 7 blessés qui ont été évacués à Kidal. Je n'arrive pas à comprendre. On a, la ministre a demandé un cessez-le-feu. Nous sommes dit, nous sommes là, nous sommes prêts pour ça. Et nous sommes là pour défendre nos populations et leur bien. Et à chaque fois, les MNLA et ses alliés qui nous attaquent et nous ripostons.
Ce qui est bizarre, c'est que vous vous battez pendant que tous les groupes sont représentés à Alger pour des négociations de paix.
Bien sûr, et nous aussi, nous sommes représentés là-bas. Et aujourd'hui, si les MNLA demandent un cessez-le-feu, nous sommes prêts à tout pour que nos populations puissent se sentir en paix.
Sidi Ould Amar du mouvement arabe de l'Azawad.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Oui, le Gabon a libéré récemment 100 immigrants illégaux africains après 10 mois de détention pour exploitation minière illégale. Moki Edwin Kidnzeka, correspondant de la Voix de l'Amérique au Cameroun, il les a rencontrés à Kiosi, à la frontière. Voici son reportage présenté par Chérubin Dorsil.
La trentaine de migrants revenus du Gabon semblaient fatigués, affamés et malades. Ibrahim Alaman, 24 ans, avait quitté le Tchad, son pays natal, pour aller chercher du travail au Gabon. Il affirme qu'il vient de passer un mois au dispensaire de la prison de Libreville et n'a pas été soigné pour ses éruptions cutanées.
Regarde mon corps, il y a des blessures partout. J'ai vraiment souffert de la maladie, il n'y avait pas d'assistance médicale. S'il y a les gens pour nous aider, il faut qu'ils viennent nous aider.
Imvram Zouli est un réfugié centrafricain. Selon lui, lors d'une rafle organisée par les autorités gabonaises, ses compagnons et lui ont été agressés par la police, puis transférés à Oyem dans le nord, où ils ont passé 3 jours avant d'être ramenés à Bitam pour être jugés.
Je ne sais pas pourquoi on m'a arrêté. J'ai fait 10 mois de prison, alors que les autorités gabonaises savent que dans mon pays, la Centrafrique, il y a l'insécurité, il y a la guerre. On a souffert. Je vous assure, on a vraiment souffert. En prison là-bas, c'était très difficile.
Selon ces anciens détenus, les descentes de police visent ceux qui résident illégalement au Gabon. 500 personnes originaires de pays africains dont le Mali et le Bénin ont été arrêtées. Linda Koumani, 18 ans, fuyait la violence en Centrafrique.
I'm a refugee from Central Africa.
Je suis une réfugiée de la République centrafricaine. Et j'ai demandé l'asile au Gabon, mais ils m'ont arrêté et gardé pendant 7 mois et m'ont maltraité. Je ne comprends pas pourquoi ils m'ont traité ainsi alors que je souffrais et qu'il y a encore de la souffrance dans mon pays, la RCA.
Parmi ces refoulés, 24 sont Camerounais, dont Léonard Kibi, 34 ans, qui a déclaré que 7 d'entre eux étaient trop malades pour revenir.
C'est par la grâce de Dieu que nous sommes encore vivants. Ils nous maltraitaient, même pour la nourriture. Nous avons mangé du riz pendant les 8 mois que nous avons passé là-bas. Ils refusaient même de nous donner des médicaments lorsque nous étions malades.
Le gouverneur de la région du sud du Cameroun, Jules Marcelin Djaga, a déclaré que les Camerounais devraient éviter de se rendre au Gabon sans leurs documents officiels.
They have a very beautiful country.
Nous avons un beau pays. Vous devez rester dans votre pays et si vous devez partir un jour, vous devez respecter les lois et règlements du pays d'accueil.
La Guinée équatoriale a expulsé récemment des centaines de Camerounais accusés de séjour irrégulier. Le Congo-Brazzaville expulse à tour de bras des dizaines de milliers de ressortissants de la République démocratique du Congo. Toutes choses qui ne sont pas conformes à la liberté de circulation des gens et des biens prônée par la Communauté économique et monétaire des États d'Afrique centrale, la CEMAC.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
En Côte d'Ivoire, l'embargo sur le diamant a été levé. L'Agence américaine pour le développement international et l'Union européenne appuient le projet droit et développement du diamant artisanal pour organiser le secteur et augmenter le volume de diamants légalement exportés. Germain Dré, notre correspondant à Abidjan, nous en dit plus.
Les activités du projet DPDDA font partie de la stratégie de transition post-embargo et combinent les domaines de droit de propriété, le développement économique, la bonne gouvernance et la communication pour le changement de comportement. Cette approche pluridisciplinaire vise, selon le directeur du projet, à transformer le secteur pour mieux profiter aux communautés et à l'État. Pour y parvenir, plusieurs actions sont envisagées. Terra de Jong.
Notre raison d'être, c'est d'apporter une assistance technique pour renforcer les contrôles internes des États producteurs, c'est-à-dire les systèmes qui régissent les diamants de la mine jusqu'à l'exportation. Augmenter le volume de diamants qui entrent dans la chaîne légale. Le diamant ne se mange pas, mais dans son temps, il a fait manger plus de 200 000 personnes en Côte d'Ivoire.
Au nom des bailleurs de fonds, réunis au sein du groupe des Amis de Côte d'Ivoire, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a fait remarquer que malgré la levée de l'embargo, des efforts restent à faire. Terence Maculé.
Il est important de garder à l'esprit que la levée de l'embargo n'est pas une fin en soi, mais fait partie d'un processus à long terme. Et au-delà du soutien continu du groupe des Amis, le projet PRADE 2 offre la voie de véritablement consolider ses acquis. J'espère que le gouvernement de la Côte d'Ivoire profitera de l'assistance apportée à travers PRADE 2 comme faisant partie de ses efforts pour résoudre les autres problèmes réglementaires et normatifs complexes et connexes tels que l'exploitation artisanale de l'or et le cadre juridique du foncier afin d'établir des conditions durables de paix et de sécurité de façon générale.
Pour le ministre de l'Industrie et des Mines, le processus amorcé suivra son cours. Jean-Claude Bou.
Cette étape de la levée de l'embargo marque un tournant important dans le programme de relance et de dynamisation du secteur du diamant. Ainsi, la Côte d'Ivoire s'attelle actuellement à préparer l'ouverture des bureaux d'achat de diamants avant la fin de l'année 2014 en vue de compléter la chaîne de traçabilité du diamant par l'exportation.
Germain Dri, Abidjan, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
À l'occasion du premier sommet international de la fille ce mardi à New York, qui vise un sommet qui vise donc à mobiliser les soutiens nécessaires à l'accélération de la lutte contre les mutilations génitales féminines et le mariage précoce, l'UNICEF publie de nouvelles données sur ces phénomènes qui violent les droits humains des filles et jeunes femmes. Le point avec Laurent Duvillier, il est porte-parole de l'UNICEF.
On estime que dans plus ou moins 29 pays d'Afrique et du Moyen-Orient, il y a environ 130 millions de filles et de femmes qui ont subi une forme de mutilation génitale féminine.
Et alors, l'impact sur la santé, ce sont des hémorragies, parfois des cicatrices, des problèmes lors des grossesses et accouchements.
Alors, il y a beaucoup d'impact à différents niveaux. D'abord, sur la santé de la maman et de l'enfant. Les pratiques de mutilation génitale féminine ne permettent pas à la maman qui est enceinte de pouvoir accoucher dans les meilleures conditions, elle risque de décéder, mais l'enfant également risque de décéder. Il y a des problèmes de complications, il y a des risques de fistules, ça c'est simplement au niveau de la santé. Mais aussi, il y a d'abord l'atteinte par rapport aux droits humains et à l'intégrité physique de la petite fille, et aussi il y a toute la souffrance psychologique qui est subie et toutes les répercussions sur la vie sexuelle aussi de ces futures femmes. Il y a beaucoup de douleurs qui sont associées à ça, et notamment au niveau de couple. J'ai parlé avec des couples en Afrique dont la femme me disait « ça ne me permet pas d'avoir des relations sexuelles épanouies parce qu'il y a énormément de douleur qui est liée au corps et qui ne peut plus être guérie par après ».
Il y a aussi des problèmes de stérilité et quand les femmes sont cousues, comme ça se fait dans certaines cultures d'Afrique de l'Est, le bébé en fait ne peut pas sortir.
Oui, effectivement. Ça pose d'énormes problèmes, surtout dans les zones rurales où, à l'accouchement, les infrastructures sanitaires ne permettent pas de fournir de l'aide quand il y a des complications et des opérations qui doivent se dérouler. Donc ça pose un grand problème et c'est pourquoi lutter contre ces phénomènes en amont permettrait de réduire ces risques à la naissance et d'éviter ces décès à la fois des mamans mais également des enfants.
Alors le rapport de l'UNICEF porte également sur le mariage précoce. On chiffre environ 700 millions le nombre de femmes mariées pendant leur enfance. Est-ce qu'on comprend pourquoi ce phénomène ne semble pas se réduire ?
Alors, il y a des avancées. C'est vrai que ça ne se traduit pas forcément par des avancées en termes statistiques, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des avancées. Il y a 3 semaines, on a vu une avancée au niveau de l'Union africaine, avec une prise de position de beaucoup de pays africains contre le mariage précoce. On voit aujourd'hui de plus en plus de voix qui s'élèvent en Afrique et dans d'autres régions du monde pour dire « les filles ne sont pas une marchandise, elles ne peuvent pas être ni achetées ni vendues ».
C'était Laurent Duvillier, porte-parole de l'UNICEF, au micro de Camille Gros-Didier. Le VIH-Sida est souvent qualifié de rétrovirus le plus intelligent au monde. Une fois que le corps envahit, il se reproduit à une vitesse étonnante et s'adapte dès qu'il est confronté à un obstacle. Les participants à la 20e conférence sur le sida en cours à Melbourne, en Australie, ne s'accordent pas sur les moyens de l'éradiquer, Camille Gros-Didier.
Depuis le début de la pandémie, il y a plus d'une trentaine d'années, le VIH-Sida a tué 39 millions de personnes selon l'ONU-Sida. Cette semaine, 12 000 acteurs de la lutte contre le sida discutent à Melbourne de la marche à suivre pour tenter une nouvelle fois de neutraliser le virus. Parmi eux, Nagat El-Hadi de l'Association de planning familial du Soudan qui exprime un souhait très simple.
Ending new infection. HIV et new infection.
Mettre fin aux nouvelles infections et travailler ensemble pour mettre fin à ces nouvelles infections. Le patron de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, a évoqué les buts de son organisation à Melbourne.
My vision for ending AIDS looks like this.
Ma vision pour mettre fin au sida ressemble à ceci, dépistage et traitement volontaire pour tous et partout, que chaque séropositif parvienne à la suppression virale, que personne ne meure du sida ou ne naisse avec le sida, que les séropositifs vivent dans la dignité, protégés par la loi et soient libres de se déplacer partout dans le monde. Mais comme le soulignent de nombreux activistes, tout comme la médecine, la société a son rôle à jouer, en particulier dans les pays où les homosexuels, lesbiennes et transsexuels sont victimes d'ostracisme et pénalisés par la loi. Abina Aher est née garçon en Inde, mais s'identifie comme femme. Dans sa société, on l'appelle Hijra, une personne qui n'est ni homme ni femme. Ainsi rejetés, les Hijra sont réduits à la prostitution pour survivre, ce qui leur fait courir un risque énorme de contracter le sida. Lundi, la conférence de Melbourne offrait 87 panels de discussion, discours et présentations. L'espoir étant que d'ici vendredi, à la clôture de la rencontre, les experts puissent parvenir à un consensus sur les moyens de prévenir ou guérir le sida.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure des sports et j'accueille Nicolas Pineau. Bonjour Nicolas.
Bonjour Bagassi.
D'abord Nicolas, cette information, la Fédération ivoirienne de football a retenu 5 entraîneurs dans sa short list pour le poste de nouveau sélectionneur des éléphants. Francis Gillo, Frédéric Antonetti, Hervé Renard, José Manuel de Jesus et Luis Fernandez sont les 6 entraîneurs retenus. Il y avait 37 candidats au départ et Nicolas, vous l'avez constaté, aucun Africain ne figure sur la liste des 5. Mais Nicolas, le Brésil, quant à lui, a déjà un nouveau sélectionneur.
Comme annoncé, la Fédération brésilienne de football n'a pas tardé à trouver un successeur à Luis Felipe Scolari, limogé juste après une Coupe du Monde qui s'est terminée sur 2 camouflés. Les dirigeants ont fait un choix très conservateur en nommant Dunga, qui doit être intronisé ce mardi à la tête de la sélection.
Et en rubrique transfert,
l'arrière latéral français de Manchester United, Patrice Evra, s'est engagé pour les 2 prochaines saisons avec le club italien de la Juventus de Turin. Et puis le capitaine de l'Angleterre et milieu de Liverpool, Steven Gerrard, il a décidé de mettre fin à sa carrière internationale à l'âge de 34 ans et après 114 sélections avec l'Angleterre.
Enfin, suspense à Ouagadougou pour les titres de champion.
Oui, à une journée de la fin du championnat de première division au Burkina Faso, l'étoile filante de Ouagadougou est bien partie pour décrocher le titre cette année. Ce serait une première depuis 2007, comme nous l'explique notre correspondant à Ouagadougou, Salif Kabore.
L'étoile filante de Ouagadougou totalise 61 points, mais elle est suivie par l'Union sportive des forces armées, le club militaire du Burkina Faso, qui compte actuellement 58 points. Un match nul lors de la 30e et dernière journée suffirait donc aux bleus et blancs de la capitale burkinabé. Déjà, les supporters de l'EFO se félicitent et pour eux, le titre est un acquis. Pour parvenir à ces résultats, le club a été remanié à plusieurs reprises. Moustapha Dektounda est le président de l'EFO.
Ça fait 7 ans que nous courons pour être champion du Burkina. Nous avons
par deux fois remanier l'effectif. Les gens ont critiqué, mais c'est comme on le dit, par trois fois nous avons remplacé les entraîneurs. Je crois que c'est sous ce travail réuni qui a payé aujourd'hui.
D'ores et déjà, à l'étoile filante de Ouagadougou, les préparatifs pour la campagne africaine sont projetés pour défier les grands clubs.
L'équipe va connaître des modifications. Si on veut faire une représentation honorable, il faut forcément renforcer l'équipe à certains niveaux, à certains postes. Donc nous allons être obligés de faire recours à des joueurs plus talentueux, éventuellement que ce soit au niveau interne ou à l'extérieur. Nous allons aussi essayer de bénéficier d'une formation d'entraînement à l'extérieur. Pour un club qui doit aller en campagne africaine, les préparations ne doivent pas se faire comme si on partait en championnat national. Vous voyez les grands clubs comme la SEC d'Abidjan ou le stade Bamako ou le Djoliba, nous n'avons pas leurs moyens, mais je pense quand même que ces équipes-là mettent un peu plus de sérieux dans leur préparation que nos équipes. Et nous, nous allons cette année essayer de nous mesurer à ces clubs-là en allant nous former, soit en Côte d'Ivoire ou au Mali, ne serait-ce qu'un stage bloqué d'au moins une ou deux semaines pour prendre leur expérience afin de pouvoir représenter honorablement le pays.
Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
Après le sport, la musique maintenant avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. Comme Fela, hein, qui avait fondé Kalakuta Republic, Papa Wemba créa en 1977 dans sa cour familiale de Matongé à Kinshasa le village de Molokai, une sorte de copie d'un village africain avec ses règles et ses codes dont il s'introduisa lui-même symboliquement chef coutumier. Mais sa démarche n'était pas politiquement comparable à celle de Fela au Nigeria car il n'a jamais fait de l'activisme politique. Il travaille présentement sur un nouvel album, mais ce matin, nous l'écoutons dans Kemafumbe.
Alors Roger, Papa Wemba bat le record de la longévité en matière de succès musical. L'enfant est nommé Papa parce qu'il est le fils aîné de sa mère.
Oui, Bagassi, alors que Papa Wemba est encore bébé, la famille s'installe à Léopoldville, capitale du pays, alors colonie belge. Dès l'enfance, il cultive une voix ténor particulière et devient chanteur en suivant les traces de sa mère, une pleureuse professionnelle. À cause de sa voix, Bagassi, il prend le pseudonyme de Jules Presley.
Papa Wemba, Kemafumbe. Merci Roger.
De rien Bagassi, salutations à notre ami Yves Kambala à Kinshasa.
Roger Muntu que vous retrouvez dans RM Show chaque jour à partir de 20h temps universel.
Mississippi Mama na Wendy.
Ewaji la monye bola lolo komele. Ana le kola monye bola lo di kopi. Ana pangale boyo bayo shabi. We ba jo pena ki kumba lo nyo homa. Ye ba le nyo no go boya de lo he. Boya Fubu,
O Costa Bella Kikumba,
Papi Wemba, Liswa Mokosi,
Lolé en bas,
le gouverneur de Minnesota, Papa de Queen Mada, Henri Wanya,
Yao Motoro Kakala, les Lega Pami Wanya Kene, Wamato Hachinia, Woyoka Pami Sonyi,
Action Zakoto,
Lanya, les Wokena Kena, les Halalanya. Li woke na kena, le kongolanya, li woke na kena, ahe kalanya.
Yeah, pusa, pusa,
Jean-Paul
pusa,
Kassette.
Pusa, pusa,
Marate
pusa,
de la
pusa, 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 konga, konga,
Leonard
konga,
Chaco.
Tukuma, 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 oko se kumayi, pela ki komba.
Die donne, alala, la Suisse Mendele.
Kaka la langue sumula ya kondole, loko mela no di mandala no apite. Loko mela langue sumula no mena. Loko mela yo shane mola jo tondo. Nye male toyo nongo moya no toche.
Akona
bubul. Leki abotu.
Voilà, c'est donc sur ces notes de Papa Wemba que s'achève notre édition. Merci à Anne Alberson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Dernière nouvelle en Afrique,
Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.